Bienvenue à tous sous les flocons à Québec. Bienvenue à Chiz 94.3 pour Chérie, j'arrive, votre magazine culturel et artistique de ce qui se fait de beau et de bon ici à Québec et au Québec également. Aujourd'hui, au menu, on a une première entrevue en entrant d'émission avec Bogdan Anifrani, qui est un réalisateur qui participe à la Journée du cinéma canadien, qui est aujourd'hui, et oui, si vous ne le saviez pas, il y a une panoplie de films et de courts-métrages à voir sur ce site Internet-là. Et tout de suite après, on parle encore cinéma, parce que c'est Nathan qui vient nous faire une super chronique sur les Oscars qui s'en viennent très, très vite, si ce n'est pas pour dire en fin de semaine. Puis on va recevoir Maxime Turcotte pour une chronique jeux de société. Et on conclut l'émission avec Alex Tremblay-Lamarche pour une chronique littéraire. Tout ça, c'est votre Chérie J'arrive habituel du mercredi. Merci beaucoup d'être là et on commence à l'instant. Aujourd'hui, 21 avril 2021, c'est la Journée du cinéma canadien. On y présente une série de courts-métrages sélectionnés pour contribuer à documenter ce que les Canadiens vivent à travers la pandémie, créer des opportunités significatives pour les cinéastes émergents et créer du contenu de courte durée qui attirera un public en ligne. Et le but derrière tout ça, vraiment derrière les journées, la Journée du cinéma canadien, ben, c'est de nous connecter entre nous, Canadiens, par le cinéma. Et parmi les courts-métrages qui sont sélectionnés, il y a le Givre de Bobby Eve. C'est Bogdan Anifrani qui réalise et qui a animé ce court-métrage-là. Il est au bout du fil avec nous. Salut! Ça va bien?
J'ai co-réalisé en fait avec Inès.
Tu me voles les mots de la bouche. C'était la prochaine information que j'allais donner. Bogdan, merci beaucoup de te joindre à nous. Comme je le mentionnais, tu es animateur, réalisateur montréalais. Raconte-nous un peu ton parcours qui t'a mené à participer à la Journée du cinéma canadien.
J'ai étudié à Concordia, à l'Université de Concordia, dans le programme d'animation.
Alors, c'est au courant de tes études que tu t'es développé un intérêt pour le cinéma, puis on t'a contacté pour la Journée du cinéma canadien. Qu'est-ce que ça représente pour toi de faire partie de cet événement-là qui rayonne à travers le pays?
C'est comme une façon de montrer la diversité et puis la culture canadienne c'est juste passionnant de montrer d'une différente façon en fait qu'est-ce que le cinéma est, puis qu'est-ce que représente c'est quoi la culture canadienne en fait. Puis la culture canadienne, je pense que c'est vraiment une culture diverse et ça permet de représenter.
Oui, parce qu'il faut mentionner, Bogdan Anifrani, tu es d'origine togolaise et ukrainienne, puis tu résides à Montréal maintenant. Alors, c'est vrai que tu fais partie de la diversité et que tu montres à quel point la culture canadienne est de multifacettes. Puis, quelles sont les retombées que tu souhaites avec la Journée du cinéma canadien en présentant le court-métrage de Le Givre de Bobby Eve?
Tout d'abord, il faut dire que c'est un film qui se passe dans c'est un film qui se passe au plein milieu d'une grosse tempête de neige, qui est drôle quand même parce qu'aujourd'hui à Montréal il neige beaucoup.
Effectivement.
J'ai l'impression que c'est ça ce que notre film a amené ici. Mais sinon, j'espère juste que ça va montrer un petit peu, ça va donner un petit peu de confort aux gens qui vont regarder le film, puis. Ça va leur amener un petit sourire, puis juste de la joie.
Et du côté de ta co-réalisatrice, Ranu Inès, est-ce qu'elle a des objectifs similaires aux tiens? Vous avez travaillé en équipe là-dessus. Est-ce que vous êtes fiers du résultat?
Oui, on est très content. Pour elle aussi, je dirais que c'est similaire. Je vais pas mettre, je vais pas trop parler pour elle là, mais bon, c'est à nous deux, c'est notre premier projet professionnel en fait en dehors de l'école. Donc, je dirais que ça ça joue beaucoup sur où est-ce qu'on veut que le film nous mène en fait.
OK.
Donc, oui, je veux que, je pense que c'est on a la même idée de qu'est-ce qu'on veut faire avec le film, puis qu'est-ce qu'on veut que le film fasse pour les gens.
Oui, j'imagine. Puis là, ce film-là, Le Givre de Bobby Eve, qui arrive à un temps exceptionnel puisqu'on a une tempête d'avril, qu'est-ce que ça raconte? Parce que tu dis que tu veux que ça amène du réconfort, peut-être un peu d'espoir, mais c'est quoi l'histoire?
L'histoire, c'est un personnage qui se réveille sur son bateau en plein milieu d'une tempête de neige inattendue. Et il essaie en fait de retrouver un abri car la tempête augmente d'intensité et elle devient de plus en plus dangereuse. Donc pour lui, son but, c'est en fait de trouver un abri, de se sauver.
J'ai vraiment l'impression que ce film-là aurait pas pu sortir une autre journée qu'aujourd'hui.
C'est ça, exactement.
Et là, ce film-là sera présenté dans le cadre de la Journée du cinéma canadien qui est aujourd'hui. C'est à 19h bien précise que ce sera présenté. Où est-ce qu'on se rend pour le visionner?
Au site canadianfilmday.ca, Lights.
OK. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits où est-ce qu'on peut le voir ou c'est vraiment une once-in-a-lifetime visionnement?
Non, en fait, ça va pas être un once in a lifetime, évidemment, parce que le film, on va l'envoyer en festival et on va le mettre en ligne par la suite. Mais pour l'instant, c'est sur le site du National Canadian Film Day.
Qu'on peut aller visionner dès 19h ce soir dans le cadre de la Journée du cinéma canadien. Bogdan Anifrani, je te souhaite énormément de succès avec ton film Le Givre de Bobby Eve qui sera présenté à 19h ce soir. Et qui sait, on aura certainement l'occasion de se reparler éventuellement.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et nous, on va aller entendre les cadenas de Bleu Kérosène. Vous êtes à Chiz 94.3 dans quelques instants. On continue de parler de cinéma puisque c'est Nathan Murray qui fera son apparition sur la ligne téléphonique pour nous parler des Oscars. Vous êtes à Chiz 94.3.
On a l'habitude. Toi puis moi de s'aimer tout bas, même dans les concerts, entre les cadenas.
Kérosène avec les Cannes, tirés de leur album très récent, d'ailleurs, L'Artifice de l'Aube. Je vous invite vraiment à mettre ça dans vos oreilles, éventuellement, même très rapidement, pourquoi pas. Et là, maintenant, on est toujours dans une thématique cinéma. Cette fois-ci, on va jaser des Oscars qui arrivent très, très vite, c'est-à-dire en fin de semaine, avec Nathan Murray, qui a écouté tous les films qu'il fallait voir pour bien préparer sa chronique. Comment a été ton écoute, Nathan?
Bien, bien, bonne sélection, une sélection assez solide. Cette année, c'est certain que le plaisir a été un peu diminué par le fait que j'ai dû avoir une certaine partie sur un écran plus petit que le traditionnel écran
cinéma. Oui.
Mais néanmoins, c'est une sélection assez belle tenue en 2021.
Certainement. Et puis là, l'événement arrive très bientôt. Comme je le disais, qu'est-ce qu'on surveille? Parce qu'il y a de nombreuses nominations qui valent la peine d'être discutées.
Oui, oui, toujours. Bien entendu, ce qui retient d'abord l'attention, peut-être, hormis la catégorie reine de meilleur film, c'est toujours les performances d'acteurs, de ce qu'on nous offre sur l'écran. Donc, ce sont les gens auxquels on s'identifie, et souvent, c'est ce qui emporte ou non l'adhésion d'une partie du public. Donc, c'est peut-être cet élément-là qui peut jouer en faveur ou en défaveur d'une ou de l'autre des personnes. Et on se rappellera aussi que l'Académie des Oscars est constituée en majeure partie, c'est-à-dire le corps de métier le plus représenté, c'est celui des acteurs. Donc, ça vient aussi jouer. Habituellement, un film récompensé dans la catégorie meilleur film l'a aussi été pour au moins un de ses interprètes.
Et là, dans quelle catégorie on plonge en premier?
On va y aller avec meilleur acteur, donc avec des performances assez solides cette année. Donc, on a Riz Ahmed d'abord pour son rôle de batteur sourd dans Sound of Metal, le son du silence en français. On va savoir pourquoi. Chadwick Boseman aussi, donc acteur bien connu pour son interprétation de la Panthère Noire dans l'univers Marvel, qui est en nomination dans le blues de Ma Rainey. Chadwick Boseman qui est décédé l'automne dernier. Donc, est-ce qu'on verra un nouvel Oscar remis à titre posthume après celui remis à Heath Ledger pour son rôle de soutien dans Batman? C'est une possibilité. Parmi les autres nommés, il y a Gary Oldman pour son rôle du scénariste Herman Mankiewicz dans Mank de David Fincher, et Steven Yeun en fait pour le très aimé Minari, donc ce film coréen qui a fait de belles figures jusqu'à présent. Mais mon coup de cœur, et je le dis sans aucune réserve, c'est véritablement Anthony Hopkins pour son rôle dans Le Père, donc The Father de Florian Zeller. C'est une performance absolument exceptionnelle qui mérite d'être soulignée.
Et est-ce que tu crois, parce que ça c'est ton opinion, puis tu nous en avais largement parlé dans tes dernières chroniques, mais est-ce que tu penses que ta prédiction, ton choix, sera le vainqueur dans cette catégorie du meilleur acteur pour les Oscars qui arrivent en fin de semaine?
J'en suis pas du tout certain. Les BAFTA ont donné une lueur d'espoir puisque Anthony Hopkins a remporté la statuette en Grande-Bretagne, mais très sincèrement, je crois que Chadwick Boseman a plus davantage de chances de l'emporter. Tout d'abord, une sorte d'hommage rendu par cet Oscar posthume. Ensuite, une présentation, un rôle quand même assez fort aussi, quoique dans un film beaucoup plus faible que Le Père. Et enfin, récompenser cet acteur qui est quand même une figure populaire connue. Ça vient jouer aussi dans les considérations parfois. Donc, je pense que c'est Chadwick Boseman qui va l'emporter. Mais la victoire d'Anthony Hopkins n'est pas impossible. Ce serait du reste une belle surprise.
Puis, du côté de la meilleure actrice, qui sont les nominés?
Viola Davis pour son rôle, elle aussi, dans le blues de Ma Rainey. Andrade pour son rôle de Billie Holiday dans Billie Holiday contre les États-Unis. Donc, elle a remporté le Golden Globe, mais c'est un film qui a eu très peu d'écho, des critiques plutôt tièdes, sinon mauvaises. Donc, je vois mal sa victoire aux Oscars. Sinon, il y a Vanessa Kirby qui était excellente dans Pieces of a Woman, Renaître en français. C'est présenté sur Netflix, donc une femme qui perd son enfant lors de l'accouchement. Un rôle vraiment déchirant dans un film assez sombre. Il y a enfin Carey Mulligan dans le rôle dans une jeune femme pleine de promesses. Qui, à mon avis, est la seconde favorite et pourrait peut-être même causer la surprise. Mais pour ma prédiction et pour mon coup de cœur personnel, j'y vais avec Frances McDormand pour son rôle de Fern dans Nomadland, donc le film qui est le grand favori cette année. Et puis Frances McDormand, il faut dire qu'il est toujours impeccable dans les rôles qu'elle obtient. Puis cette fois, elle se plonge dans celui d'une veuve qui travaillait autrefois dans une ville industrielle, ville fermée, et qui couche dans sa caravane, donc vit en nomade sur le territoire des États-Unis. Rôle très, très sensible, très, très bien interprété.
Et ta prédiction correspond-elle à la victoire, tu crois?
Je pense que oui. Je pense que Frances McDormand devrait logiquement l'emporter cette année, encore une fois, et mettre la main, si je ne m'abuse, sur une troisième statue.
Et dans les autres catégories qui sont intéressantes, on a l'indétrônable meilleur film de l'année, mais est-ce qu'il y en a une autre ou peut-être deux autres qui mériteraient qu'on porte attention?
Oui, bien, le scénario est toujours un bon indicateur aussi d'une possible victoire. Scénario original, d'une part, scénario adapté de l'autre. Pour le scénario original, celui d'Emerald Fennell pour une jeune femme pleine de promesses, semble devoir être récompensé par l'Académie. Donc, quelque chose, un scénario écrit par une femme, les nominations féminines sont très, très rares. Cette année fait figure d'exception. Un film qui était très réussi sur un sujet important, un scénario surprenant, une excellente adaptation, ça pourrait être le gagnant. Pour ma part, j'irais personnellement avec le scénario de Wilburton et Chaka King pour Judas and the Black Messiah.
Film que je n'ai pas encore vu, Nathan, je suis assez déçue.
Ah, tu me fends l'âme, Gabriel, mais tu auras le temps de te reprendre, puisque si jamais mon coup de cœur s'avère être aussi celui de l'Académie, on pourrait bien voir le film ressortir sur les écrans, lorsque, bien entendu, les écrans se rallumeront, s'ils se rallument avant la prochaine édition.
J'ai bon espoir, sinon j'irai le trouver sur une des plateformes de diffusion. Puis attaquons maintenant la catégorie la plus croustillante, celle qu'on attend, puis celle qui est quand même un honneur assez incroyable quand on participe et qu'on est nominé aux Oscars qui auront lieu en fin de semaine. Qui sont les nominés pour le meilleur film cette année?
Souvent, un bon indice de quel film va remporter l'honneur suprême, c'est jeter un œil sur la meilleure réalisation. Cette année, quatre des nommés dans Meilleure réalisation sont aussi nommés pour Meilleur film. Et parmi les cinq nommés, on compte deux femmes. Encore une fois, si je ne me trompe pas, c'est un record hollywoodien. Donc, Chloé Zhao pour Nomadland et Emerald Fennell pour Une jeune femme pleine de promesses. Elles font face à Thomas Vinterberg pour Drunk, David Fincher pour Mank et Lee Isaac Chung pour Minari. J'avoue que cette catégorie-là est particulièrement difficile à prévoir, mais à mon avis, Chloé Zhao va l'emporter pour Nomadland. Mon cœur, personnellement, penche pour Fincher ou Vinterberg avec un léger avantage pour le deuxième. Donc, le film, je peux dire, c'est le premier que j'ai revu sur grand écran après la grande fermeture. Donc, j'ai une tendresse particulière pour le film de l'auteur cinéaste danois.
Et ça, c'est du côté de la réalisation pour le meilleur film?
C'est du côté de la réalisation. À mon avis, on ne changera rien du côté des prédictions pour meilleur film. Donc, on a cette année plusieurs candidats, pas les 10. La possibilité de 10 n'est pas remplie, mais on a quand même plusieurs films forts. Je les nomme rapidement. Donc, Le Père de Florian Zeller, Judas and the Black Messiah, Mank de David Fincher, Minari, donc le charmant film coréen, Nomadland, Une jeune femme pleine de promesses, Sound of Metal et Les Sept de Chicago que tu avais particulièrement apprécié, si ma mémoire est bonne.
Oui, effectivement. Et là, ça en fait plusieurs films forts, Nathan, mais si on a envie d'en écouter peut-être deux ou trois pour être vraiment, bon, plus sans dire préparé, mais tu sais, qu'on veut être au parfum de ce qui va se dérouler en fin de semaine, lesquels que tu conseillerais?
Eh bien, il me semble avoir quatre places sur le podium, en l'occurrence, pour cette catégorie-là. Une jeune femme pleine de promesses, par le fait que c'est un film particulièrement osé pour l'Académie, par le fait aussi que c'est un franc succès, me semble mériter la place dans une écoute pré-Oscar. Minari aussi, donc c'est un film très émouvant, déjà récompensé pour le Golden Globe. Donc c'est cette famille coréenne qui s'installe et qui dans le Midwest américain pour faire pour avoir sa propre terre, sa propre culture, c'est assez intéressant. Sinon, évidemment, il y a le Nomadland de Chloé Zhao qui a tout remporté dans les festivals, qui est disponible sur Disney Plus depuis le début du mois d'avril. On n'a pas eu la chance de le voir sur grand écran. Mais il est bel et bien disponible. Il n'y a pas de surcharge, donc on n'a pas besoin de payer le prix de l'abonnement plus un 30$ de location. Cette fois, donc, suffit d'être abonné à Disney Plus pour y avoir accès.
Ah, c'est bien ça.
Oui, et les autres, peut-être, il y a Mank de David Fincher aussi, qui me semble mériter une écoute sur Netflix, donc cet hommage au grand scénariste. Du classique d'Orson Welles, donc Citizen Kane. Avec ces éléments-là, je pense que les auditeurs de la cérémonie des Oscars auront déjà une bonne idée des principaux concurrents et auront une bonne idée du gagnant aussi, parce que c'est vraiment dans ces quatre ou cinq films-là que se situe la majorité des chances donc de remporter la statuette ultime.
Puis finalement, Nathan, c'est intéressant les Oscars, mais nous, où est-ce qu'on peut les écouter ici à Québec?
C'est sur ABC, au réseau américain, donc qu'on peut écouter ces Oscars-là, retransmis bien entendu en ligne sans aucun problème. Je rappelle que c'est une cérémonie qui devrait avoir lieu en présentiel, pour reprendre un terme à la mode, et qu'on a banni dans la mesure du possible les Zooms. Donc, un peu de glamour, un tapis rouge et peut-être donc une bonne dose de bonheur, une bonne dose d'ennui aussi, on devrait en convenir, puisque c'est rarement très, très passionnant comme cérémonie. Et à mon avis, c'est Nomadland qui devrait repartir avec les honneurs et qui devrait remporter les Oscars dans les principales catégories.
Et moi, je parle pour tout l'auditoire et en ma personne aussi, Nathan, on compte sur toi pour regarder les Oscars et nous arriver avec les grands récipiendaires de cette fameuse statuette. Ça a lieu cette fin de semaine. C'est disponible en ligne ou sur le réseau ABC, sur la chaîne américaine. Nathan Murray, un énorme merci d'abord d'avoir devancé ton heure de chronique, mais pour cette présentation assez complète de ces nominés des Oscars qui auront lieu en fin de semaine.
Ça fait plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour mon célèbre commentaire du tapis rouge.
Ouh! J'ai hâte de voir ça. Moi, je vais regarder les robes puis les habits.
C'est bon. Bonne fin de journée.
Merci beaucoup, Nathan. Et parlant de nouveautés et de grandes sorties, il y a les Louanges qui, la semaine dernière, nous a offert une nouvelle chanson, Pigeon, qui parle, entre autres, de certains déboires de la célébrité. Je trouvais que ça fitait bien avec cette chronique Oscar. Vous êtes à Chise 94.3 dans quelques instants. Après la chanson, après la pause, on parle de jeux de société avec Maxime Turcotte. Vous êtes à Chérie, j'arrive, à Chise 94.3.
Faisait un bail que j'étais rentré à la maison. On courait après les haïs sans jamais regarder au fond. Enterrer mon grand-père, ensuite embarquer dans l'avion. Rencontrer Lucifer, maintenant je serai bon garçon. Enjamber les feuilles, laisser trace sur le béton. Micro dans les mains, j'en guérisine sur le carton. Tison brûlant, j'en ai foutu partout sur mon blouson. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tout l'aide pour les parents. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tout l'aide pour les parents. Je resterai le fantôme. Nomade maintenant, mode de vie normal. Mossade parfois les couleurs du voyage. La tournée altère le sens de la morale. Baisse parfois sa part en ton mirage. À quand la dernière fois, dernier rattrapage. Les représailles me font peur, mais j'ai quel âge. Assume que t'es parti, après on n'en parle plus. Oh, reste qu'à laisser aller. Laisse aller le post-it, passer qu'au réclame. Par ici les papiers, repêcher les vues.
S'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous souhaitez devenir bilingue ou faire valoir le bilinguisme au Canada? Ne cherchez pas plus loin. Perfectionnez votre anglais ou encore aidez des jeunes à apprendre le français en participant au programme Explore ou Odyssée. Explore et Odyssée vous permettent de vivre dans la langue et la culture d'une autre région au Canada, de vous faire des amis et de vivre des expériences inoubliables. Pour beaucoup, Explore et Odyssée ont changé leur vie. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez françaisanglais.ca. Programme financé par le gouvernement du Canada.
Au Club Critique, on donne toujours notre 110%.
Cette tune-là fait clairement pas les ligues majeures.
On a la meilleure équipe.
Quand j'ai écouté ça, j'ai pogné un méchant 2 minutes pour interférent.
Au cœur de l'action,
je fais une passe sur la palette. Je veux plus rien savoir de cet album-là.
Pour vous donner une information claire sur les nouveaux joueurs musicaux.
D'ailleurs, c'est le fondateur de Guillaume.
Des mises en échec jusqu'aux étoiles du match.
Tartuffe-là va prendre à mon équipe demain matin.
Guillaume, Gabriel,
Émilie.
On va la mettre dans le net top corner.
Tous les mercredis, 13h.
Tu sais, cet ami gossant qui, dans toutes les conversations, finit par dire « C'est comme dans le livre d'un tel ou dans le film d'un autre. » Ben, la Planète des Sages, c'est cet ami en 3 exemplaires qui prennent 1 heure d'espace radio pour jaser d'un tel. Chaque semaine, le mardi à 10h, on convoque une figure populaire et on approche naïvement son œuvre. On se retrouve sur la Planète des Sages à Chiz 94.3.
De retour à Chiz 94.3 pour Chérie, j'arrive. Et c'est le moment de prendre des petites notes parce que c'est la section Jeux de société avec Maxime Turcotte. Salut!
Salut Gabriel!
Comment ça va?
Ça va super bien, toi?
Oui, alors aujourd'hui, tu nous amènes à réfléchir, à nous remémorer des choses parce que le jeu que tu nous présentes s'appelle Déjà vu, fragment de mémoire. Pourquoi tu as choisi ce jeu-là?
J'ai choisi ce jeu-là, puis écoute, je vais casser la glace tout de suite. Je vais en parler, mais ce jeu-là n'est pas disponible pour racheter.
Hein?
Je t'explique ben pourquoi. Ben oui, je le sais, ça fait comme un peu bizarre de parler de ça, mais au-delà du jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, dans le fond, je vais vous présenter un peu ce qu'il y a en dessous de ça, qui est la plateforme Kickstarter. T'sais, je sais qu'on en a déjà parlé brièvement, parce que c'est un jeu qui a été produit sur Kickstarter. C'est une plateforme, dans le fond, pour financer, dans le fond, des compagnies sur plein de choses, mais entre autres des jeux de société. Donc, des gens, des fois, qui veulent créer des jeux de société, mais qui n'ont pas encore les ressources nécessaires pour aller tout de suite ces grandes tablettes là, des grandes compagnies. Donc, ils demandent aux gens comme de payer d'avance le jeu. Fait que tu peux financer justement des jeux et découvrir des choses assez extraordinaires. Et c'est là-dessus que le jeu déjà vu, il a été pris. Puis, dans le fond, mon but de le présenter aujourd'hui, c'est d'avoir un peu expliquer juste les choses extraordinaires qu'on peut trouver sur Kickstarter. C'est au-delà des jeux qu'on retrouve sur les tablettes des grands magasins ou des petits magasins. C'est aussi une super plateforme intéressante pour découvrir des choses assez extraordinaires.
Quels jeux connus, populaires qui ont commencé sur Kickstarter, en as-tu une idée?
Hey, non, là, il aurait fallu peut-être faire une petite recherche là, pour ça, mais pour l'instant, non, je ne sais pas. Okay. Là, mais il y a des jeux que j'ai déjà présentés, entre autres, le 7e continent a commencé sur Kickstarter je crois le Tapestry aussi, là, que j'ai déjà parlé. Donc, c'est une plateforme qu'on peut retrouver des grands jeux. Là.
Moi, je peux ajouter qu'on a déjà acheté sur Kickstarter un sac fait pour transporter les jeux de société. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça, de faire un sac avec les parfaites dimensions pour toutes les boîtes de jeux de société. Alors, nous autres, on a un sac qu'on a trouvé sur Kickstarter. Alors, effectivement, il y a des idées assez extraordinaires qu'on trouve là-dessus. Mais allons-y, explique-nous le jeu, puis ensuite, on va dériver dans le Kickstarter.
Oui, certainement. Donc, le jeu déjà vu, c'est un jeu là, par rapport à la mémoire. C'est un 2 à 4 joueurs, c'est un 10 ans et plus. Les games, c'est environ 45 à 90 minutes.
Ah, c'est long.
C'est un jeu de base de compétition, mais qui peut aussi transformer en coop ou encore en solo. Mise en contexte, il y a une fille qui retrouve sa conscience. Elle est vraiment dans une capsule spatiale et elle tient dans sa main un bol avec des fleurs lumineuses bleues, mais elle n'a aucun souvenir de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est là, tout ça. Et là, elle regarde à travers le bleu. Évidemment, elle est dans l'espace, elle voit des planètes et elle a un sentiment de déjà-vu, le nom de la boîte. Et là, elle est donc en quête pour retrouver sa mémoire.
Mais comment
donc,
elle va faire?
C'est une excellente question. Nous, les joueurs, dans le fond, on va comme un peu interpréter les esprits cosmiques qui vont aider la fille sans nom à retrouver, à collecter des morceaux de mémoire à travers l'univers. Donc, le plateau, dans le fond, de la façon que c'est fait, c'est comme plein de tuiles de différentes formes géométriques qui représentent l'espace qu'on va disposer partout sur le tapis de jeu. Mais pour que toutes les tuiles touchent à au moins deux autres tuiles, donc c'est pour comme ça crée un genre de chemin. Mais le but, c'est que ça soit quand même aléatoire et différent. Sur chacune de ces tuiles-là, écoute, j'ai décidé de l'appeler des jetons Lucky Charms parce que vraiment, ça ressemble vraiment à des guimauves Lucky Charms. Parce que
l'image
dans le fond,
est bonne.
Oui, c'est des jetons d'impression, fait en forme de lune, d'étoiles.
De Lucky Charm.
Exact. Ça a vraiment l'air des Lucky Charm, parce que c'est aussi de différentes couleurs. Mais en fait, tu places des Lucky Charm un peu partout sur les tuiles de façon aléatoire. Et le but, dans le fond, ça va de récolter ces morceaux-là pour, dans le fond, avec des cartes, acheter, dans le fond, donc construire des souvenirs pour faire, dans le fond, une espèce de panorama devant toi. Et de construire justement ces mémoires-là.
Alors, on va déplacer les pièces au fur et à mesure, puis ces pièces-là vont représenter des morceaux de mémoire pour reconstruire l'histoire du début.
C'est exact. Donc, elle peut entre autres reconstruire, dans le fond, une vision des planètes qu'elle a visitées. Dans le fond, il y a 6 planètes, donc il y a 6 lots de 7 cartes qui forment un dessin continu quand tu les mets un à la suite de l'autre. Et donc, c'est tout mélangé. Donc, tu peux construire tes fragments au fur et à mesure, mais tu n'es pas obligé de les faire dans l'ordre. Mais évidemment, le but du jeu, dans le fond, pour en venir, là, c'est de faire le plus de points. Donc, le premier qui va construire 10 cartes mémoire met fin à la partie. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va gagner.
Ah.
Parce que tu peux faire des points de différentes façons. Tu peux construire plein de souvenirs dans l'ordre, dans le désordre, mais évidemment, si tu réussis à faire des panoramas dans le bon ordre, avec les mêmes couleurs, tu fais plus de points. Tu peux aller planter des fleurs bleues aussi dans l'espace et recueillir des fragments de mémoire aussi qui vont te donner des points à la fin. Et dans le fond, il y a aussi les mémoires que tu construis avec les jetons qu'on parlait tout à l'heure, les Lucky Charms. Ils ont aussi des pouvoirs spéciaux pour te permettre des fois de te déplacer plus vite, de recueillir plus de jetons à la fois, de faire plus de points à la fin, tout ça. Là, fait que c'est comme tout ce petit concept-là. Là,
mais je reviens aux fleurs bleues. À quoi elles servent dans le jeu?
Ben, c'est une bonne question. Enfin, le but, c'est de planter à travers l'univers. Parce qu'à travers, tu as des fleurs bleues, tu dis qu'est-ce que je fais avec ça? En les plantant, elle retrouve aussi des fragments de mémoire, qui est d'autres sortes de jetons. C'est pas les mêmes que les Lucky Charms. Ça permet aussi de construire d'autres choses. chose et d'avoir des points aussi à la fin, là, dépendamment des cartes que tu as en jeu.
Alors, on plante des fleurs puis on retrouve la mémoire. C'est fabuleux, ça.
Mais exactement, tout en mangeant des locuteurs.
Ah. C'est le rêve, ce jeu-là qui s'appelle Déjà vu, fragment de mémoire. Comment t'es tombé sur ce jeu-là sur Kickstarter, toi?
Ben, à vrai dire, c'est vraiment mon chum là, qui est comme un grand fan de Kickstarter. C'est lui qui m'apprend à découvrir ça. Puis c'est lui souvent qui magasine. Puis quand il spot un jeu, là, il m'écrit sur Messenger puis il dit « OK, là, j'ai spoté un jeu. Le design il est beau. J'ai regardé les vidéos, les consignes, les règlements. » Puis il adore ça, relire les règlements. Fait que là, il m'en parle et il dit « Je pense que ça pourrait être un bon investissement parce que reste que il y a un petit risque aussi sur Kickstarter. De, évidemment, comme le jeu est en construction, on n'a pas tous les détails nécessairement ou on peut pas jouer d'avance non plus avant de payer, de le recevoir. Donc, il y a quand même un petit facteur de risque. Aussi, même chose, s'il n'y a pas assez de financement, ça se peut que le jeu ne voit pas le jour. Mais pour toutes les expériences qui sont là qu'on a vécues pour l'instant, on a peut-être 90-95% de satisfaction. De ce qu'on a acheté. Mais fait là, il m'a envoyé ce jeu-là. Je pense que ce qui nous a fait tomber en amour sur le jeu, c'est vraiment le design de la boîte et des pièces. C'est vraiment. Mais, c'est pas nécessairement juste à cause des Lucky Charm, là, mais c'est
tout
le de l'univers, le visuel qui a été travaillé, c'est vraiment magnifique. Il y a ça des fois qui nous interpelle aussi, puis c'est ça qui nous a interpellé dans le jeu.
Et là, ce jeu-là, il est présentement à investir sur Kickstarter, c'est ce que je comprends.
Ben non, dans le fond, c'est déjà fini. Dans le fond, il était investi jusqu'en 2018. Nous, on l'a reçu justement en 2018. Fait que c'est pour ça que je disais qu'il n'est pas accessible. Fait que je vous en parle, ça a l'air belle fun de jouer avec des Lucky Charms, mais là, malheureusement, tu ne peux pas l'acheter. Fait que c'est vraiment plus un parallèle vraiment à la plateforme Kickstarter là, pour les belles pièces qu'on peut y découvrir. C'est le genre de jeu qui peut s'apprendre. Puis, tu sais, écoute, si on se connaît, tout ça, tu sais, mettons, je peux toujours te le prêter peut-être aussi si tu veux le découvrir, là.
OK, d'accord. C'est intéressant. Puis sinon, sur Kickstarter, comment ça fonctionne? On arrive, on tape « jeu de société » puis ils vont nous sortir tout ce qui se fait financer actuellement comme jeu de société?
Oui, exact. Dans le fond, c'est une grande plateforme. Tu peux faire des recherches. Tu peux évidemment avoir des notifications aussi pour peut-être certaines catégories. Fait que tu vas de temps en temps voir un peu ce qui s'offre. C'est un peu comme du magasinage aussi, dans le fond, là, un peu comme sur Amazon. Tu promènes de différents projets. Tu lis, tu regardes les images, tu regardes les contextes, le but du jeu, tout ça. Et ensuite, après, tu peux dire, bon, j'ai peut-être envie d'investir ou non dans le jeu-là. Fait que c'est vraiment là, c'est de grands magasins en ligne, là, au fond.
Alors, on est sûr de trouver quelque chose, si ce n'est que ce jeu-là, déjà vu, Fragment de mémoire, qui était là sur la plateforme en 2018. Mais il y aura certainement d'autres choses à découvrir, Maxime Turcotte. Merci de la suggestion. C'est vrai qu'on n'y pense pas, des fois, d'aller voir ce qui est en financement.
Oui, exactement, parce que tu es en dehors des clous et des monopolies de ce monde, il y a vraiment aussi des panoplies de gens créatifs et originaux qui existent et qui offrent des jeux justement sur des plateformes comme ça. Immanquablement, tu sais, on va en trouver des fois plus en anglais, mais si on est à l'aise, là, il y a aussi des trucs en français qui sortent.
Puis on lance l'appel. D'un coup que vous avez l'idée d'un jeu de société que vous aimeriez vous plancher là-dessus un peu plus, ben Kickstarter pourrait être une démarche très importante dans votre processus. Belle suggestion de Maxime Turcotte. Hey, un grand merci. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui, ça va jusque-là.
Merci beaucoup. Et voici Anna de Melody Spear. Vous êtes à Chiz 94.3. Dans quelques instants, on parle littérature et la place de la francophonie un peu partout au Canada, puisque, bon, il y a eu... ça a été rock'n'roll du comté de l'Ontario avec l'Université Laurentienne. Et pour approfondir la question, Alex Tremblay-Lamarche sera là avec des suggestions de livres. Mais d'ici là, Melody Spear à Chiz 94.3.
Dans son lit, la couverture est confortable, sa lourdeur retient mes virages, mes pensées, elles dorment à côté de celle qui me dit continue, allez, as-tu fait bien ça, Anna?
inspire et je l'aspire. Mais c'est en fumant son fusil que je me suis tiré.
Melody Spear à Chiz 94.3. Et là, on parle maintenant d'un sujet qui a créé un grand inconfort, je vais dire comme ça, le 12 avril dernier. C'est l'Université Laurentienne, au lieu d'enseignement en français dans le nord de l'Ontario, qui a mis à pied une centaine de professeurs et qui a supprimé 28 programmes en français de premier et second cycle. Ça a secoué vraiment les communautés francophones en Ontario. Et bref, ça n'a pas fait du bien, mettons. Et pour approfondir la question, Alex Tremblay-Lamarche, qui est au bout du fil, nous sort trois volumes à consulter. Salut, Alex.
Bonjour, Gabriel.
Ça va?
Oui, ça va bien.
Puis, comment s'est déroulée ta recherche pour cette chronique aujourd'hui?
Eh bien, j'ai cherché des ouvrages qui sont soit le fait de professeurs de l'Université Laurentienne ou soit qui parlent de l'enseignement en Ontario, ou bien de ce qu'est un campus et de l'importance que ça a pour que peut-être les décideurs à l'Université Laurentienne revoient leurs décisions ou se rendent compte de l'importance que peut avoir l'enseignement en français sur leur campus.
Et ta première suggestion s'appelle « Entre solitude et réjouissance, les francophones et les fêtes nationales 1834-1982 ». C'est Marcel Martel et Joël Béliveau qui écrit ça. Quel est le lien entre l'enseignement en français et nos fêtes nationales?
Eh bien, tout d'abord, ce que je voulais mettre de l'avant, c'est que ce livre-là, il est le fait de Joël Béliveau, entre autres, qui est professeur à l'Université Laurentienne, et de Marcel Martel, qui est professeur, lui, en Ontario, à York, si je ne m'abuse, qui est donc un franco-ontarien d'adoption, si je peux m'exprimer ainsi. Et on a également un texte de Serge Miville, aussi professeur au collège à l'Université Laurentienne, dans l'ouvrage. Et donc, la raison pour laquelle je voulais parler de cet ouvrage-là, c'est pour montrer qu'il y a de la recherche qui se fait pas au Québec, sur l'histoire du Canada français, notamment à l'Université Laurentienne et en dehors du Québec, au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario, et que cette recherche-là est particulièrement intéressante et qu'elle apporte quelque chose à notre connaissance de l'histoire du Canada français.
Puis ça se débloque, entre autres, à travers nos fêtes nationales. 6 fêtes en particulier, peux-tu nous en parler davantage?
Oui, le propos de Joël Béliveau, Marcel Marcel et des quatre autres auteurs qui se sont joints à eux est d'analyser justement le rapport des francophones au Canada avec six fêtes nationales. Le 24 mai, qui va d'abord être la fête de Victoria, puis devenir la fête de l'Empire et enfin la fête de Dollars. La Saint-Jean-Baptiste, la fête de la Confédération, qui va par la suite devenir la fête du Canada. Et l'Assomption, qui va devenir par la suite la fête des Acadiens. Et donc, il y a vraiment un désir d'observer le rapport des francophones avec ces fêtes-là. Et c'est ce que nous propose l'ouvrage en six chapitres, si je ne m'abuse.
Et quel est justement ce rapport des francophones avec ces fêtes qui parfois viennent de la couronne? Donc, ce sont des fêtes autant religieuses que célébrées dans l'Empire britannique. Nous, les francophones, on prend ça comment?
Je me permets de me corriger juste avant, c'est pas en six, mais c'est en neuf chapitres, pardon. Eh bien, ce rapport, il est quand même assez intéressant. Ça va notamment être un rapport commercial lorsque les fêtes deviennent fériées. Parce que, bon, ben, par exemple, la fête de Victoria en est un excellent exemple. Qui dit congé férié à une époque où les gens travaillent beaucoup dit, ben, on va en profiter pour se reposer. Et les hôteliers, les commerçants vont rapidement en profiter. Plus tard, ben, ça va devenir davantage un rapport qui va être très politique, très identitaire. Particulièrement à partir des années 60 et 70, lorsque il va y avoir une montée du nationalisme au Québec et l'élection du Parti québécois en 1976, on va vouloir se servir de ces fêtes-là, d'une part, pour affirmer l'identité québécoise de façon très, très politique, et en réponse à ça, le fédéral va vouloir affirmer l'identité canadienne de façon très, très forte dans la fête de la Confédération. Et donc, on va voir un jeu politique qui va se développer à cette époque-là.
Et j'en reviens avec la thématique de ta chronique aujourd'hui, qui est d'un peu réfléchir sur la situation qui se passe présentement avec l'Université Laurentienne qui a mis à pied des professeurs et qui a supprimé des programmes. En quoi cette réflexion-là, avec notre rapport aux fêtes nationales, nous permet de réfléchir sur la place de la francophonie en Ontario et ailleurs au Canada?
Bien, ça nous permet de mieux comprendre l'histoire de l'Ontario français et du reste du Canada français, parce que bon, c'est un ouvrage qui traite de l'Acadie, comme je mentionnais, mais aussi beaucoup de l'Ontario français. Et le problème, je trouve, au Québec, c'est que souvent, ben, on connaît pas l'histoire des Acadiens, très peu. On connaît pas l'histoire des Franco-Ontariens, on connaît pas l'histoire des Franco-Manitobains, mis à part Louis Riel. Et là, on nous propose justement de se pencher sur les francophones de partout au Canada pour voir leur rapport avec ces fêtes nationales-là, avec aussi l'affirmation identitaire. Et donc, je pense que un ouvrage comme ça permet de montrer toute la pertinence d'avoir des universités à l'extérieur du Québec, notamment dans le nord de l'Ontario, qui développent des connaissances sur l'histoire du Canada français. Des connaissances d'un point de vue justement extérieur à celui du Québec et donc qui apportent beaucoup à notre connaissance. C'est un ouvrage qui se lit très bien, accessible. Souvent, les ouvrages collectifs, des fois, c'est un petit peu plus aride, alors que là, dans ce cas-là, bon, très belle plume, notamment de Joël Béliveau puis Serge Miville de l'Université Laurentienne. Et donc, un ouvrage que les décideurs de l'Université Laurentienne gagneraient à lire pour se rendre compte que leur département d'histoire produit des choses intéressantes.
Oui, effectivement. Ça s'appelle « Entre solitude et réjouissance, les francophones et les fêtes nationales 1834-1982 ». C'est ta première suggestion pour cette chronique aujourd'hui. On enchaîne tout de suite avec « Lieu de savoir, les campus universitaires et collégiaux » de Maurice Lagueux. Je trouvais ça intéressant qu'on évalue, qu'on regarde, qu'on pose notre regard sur les campus autant collégiaux universitaires. On dirait que c'est tellement acquis, c'est tellement quelque chose d'incrusté en société qu'on oublie de réfléchir à ce sujet-là.
Oui, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à un moment donné, quand tu étudies, surtout à la maîtrise et au doctorat, tu vas être amené à participer à des colloques, amené à visiter d'autres universités. Et ce faisant, ben, tu vas te rendre compte que il y a d'autres façons. Mais il y a également des choses sur à peu près tous les campus. Et Maurice Lagueux, qui est professeur retraité, qui a visité bon, plusieurs centaines de campus au cours de sa carrière, bien, nous propose ici une réflexion sur qu'est-ce qu'un campus, quels sont les traits communs qu'on retrouve sur à peu près tous les campus, quelles sont les tendances lourdes et bon, quelle est l'importance d'un campus dans une ville, notamment comme Sudbury, où on trouve l'Université Laurentienne. Et donc, un ouvrage, encore une fois, que j'inviterais les décideurs de l'Université Laurentienne à lire pour comprendre toute l'importance que peut prendre un campus. On parle d'emploi, on parle d'infrastructures sportives, on parle d'infrastructures culturelles. Que serait Québec sans l'Université Laval?
C'est une question qui se pose. Et à mon tour, je te pose la suivante. Qu'est-ce qu'un campus, finalement? Alex? Oh, je crois que la ligne a coupé. On va essayer de reconnecter. Je vous donne des nouvelles dans quelques instants. On va aller entendre Jamais de Valence. Vous êtes à Chiz 94.3. On règle notre petit pépin et on vous revient rapidement. Le pépin technique est maintenant résolu. On parlait de qu'est-ce qu'un campus avec l'ouvrage « Lieux de savoir, les campus universitaires et collégiaux ». C'est dans la chronique d'Alex Tremblay-Lamarche sur des réflexions apportées sur l'Université Laurentienne qui a pris des décisions douteuses la semaine dernière. Alex, t'es toujours avec nous?
Oui, cette fois-ci, de retour, pardon.
Ah, il n'y a pas de souci. Écoute, je te repose la question parce qu'on réfléchissait sur ce qu'est un campus. Mais au fond, qu'est-ce qu'un campus?
Bien, un campus, c'est vraiment un endroit où il y a une vie qui se dégage au sein d'une collectivité. C'est un endroit qui souvent va adopter une façon de se développer, soit autour d'un axe principal avec les différents bâtiments qui vont s'organiser autour de résidences, infrastructures culturelles. Donc, c'est vraiment un espace à part dans la ville qu'on son style architectural souvent qui lui est propre et qui est en interrelation avec la ville. L'Université Laval en est un excellent exemple à cet égard.
J'ai l'impression qu'avec cette définition du campus, on comprend pourquoi les communautés francophones en Ontario par rapport aux décisions de l'Université Laurentienne souffrent beaucoup de la suppression de ces programmes francophones et du renvoi de ces professeurs-là. C'est toujours dans la chronique concernant ce lundi noir en avril, le 12 avril dernier, concernant des décisions de l'Université Laurentienne en Ontario. Et on poursuit cette chronique avec une troisième suggestion, cette fois-ci en anglais, si je ne m'abuse, « Wearing Sovereignties, Church Control and State Pressure at the University of Ottawa » de Adam Strandbergensen d'Anora. Pourquoi avoir choisi un ouvrage en anglais si on parle de francophonie?
Eh bien, parce que l'Université d'Ottawa est à la fois considérée comme une université francophone et à la fois considérée comme une université anglophone en Ontario. C'est une université qui joue un rôle un peu double de ce côté-là, puisqu'il y a certains de ses programmes qui sont en français, et donc, ben, elle joue un rôle dans la francophonie ontarienne. En même temps, bon, elle a tenté de nuire, selon des informations qui ont été révélées par Radio-Canada, à l'instauration d'une université franco-ontarienne afin de ne pas lui offrir de concurrence. Et donc, ben, cette espèce de polémique dans laquelle elle est actuellement n'est pas sans rappeler un conflit assez important qui a eu lieu dans les années 1940, 50 et 60 à l'Université d'Ottawa. Conflit qui, cette fois-là, était pour le contrôle de l'université. Est-ce que ça va être un contrôle laïque ou un contrôle religieux? Et c'est ce que met Adam Strombergson Denora de l'avant dans son ouvrage.
Moi, la question qui demeure, c'est est-ce que l'Université d'Ottawa, parmi les crises et les embûches qu'elle a rencontrées dans son histoire, est maintenant meilleure en gestion de crise?
Ah, ça, faudrait demander au recteur Frémont. Mais ce que l'ouvrage dont je vous parle aujourd'hui met de l'avant, c'est surtout que, bon, c'est pour faire face à des problèmes, justement, de vocation, entre autres, et des problèmes de changement qu'il y a dans la société, que l'université s'est adaptée à ça et a décidé de se laïciser. Souvent, mais justement, quand on fait face à des crises, bien, on doit aller un petit peu avec ce vers quoi la société se dirige. On peut y résister, comme l'ont fait les Oblats, mais souvent, ben, à terme, eh bien, on évolue un petit peu au même rythme que la société, comme le met de l'avant Adam Strombergson Denora. Eh bien, dans les années 1950-60, on voit une baisse des vocations religieuses chez les Oblats, alors que une baisse de vocations religieuses tout court, et donc un nombre d'Oblats qui diminue tranquillement ou qui stagne, alors qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui veulent accéder à l'Université d'Ottawa. Le nombre d'étudiants va doubler, voire même tripler entre 1945 et 1965, et donc les professeurs augmentent. 266 en 1958, 342 en 1961, alors que les Oblats, ben, eux autres, stagnent, sinon décroissent, voient leur nombre décroître, 71 en 1958, en 1958, et ensuite 68, donc 3 de moins 3 ans plus tard, alors que le nombre de professeurs a augmenté de 100. Et donc, on voit que tranquillement, l'université se laïcise à cette époque-là.
Pour conclure ta chronique, ça allait Alex Tremblay-Lamarche. Si on veut en apprendre plus sur la situation de l'Université Laurentienne, où est-ce qu'on se rend? Qu'est-ce qu'on devrait lire pour se mettre à jour?
Eh bien, je vous invite à lire les articles qu'il y a sur le site de Radio-Canada. Également, bon, les articles de l'ONF, pas de l'ONF, mais en fait, justement, des médias franco-ontariens, ONFR, si je ne m'abuse, qui sont particulièrement intéressants sur la question, ouais, l'ONFR, ainsi que ceux du Devoir. Et donc, vous allez avoir beaucoup d'informations de ce côté-là. Il y a également des chroniques qui ont été faites par Antoine Robitaille dans le Journal de Québec. Et au final, c'est ça, je m'en voudrais de pouvoir revenir rapidement sur l'ouvrage de Maurice Lagueux, sur lequel on est passé peut-être un petit peu rapidement. C'est un ouvrage qui est vraiment intéressant pour comprendre ce qu'est un campus, l'importance que ça a. Et donc, si vous voulez savoir, bon, comparer différents campus, il y a beaucoup de photos, plus d'une centaine de photos qui nous permettent de voir des campus d'un peu partout dans le monde, qui permettent de voir le rôle que les œuvres d'art prennent sur les campus, l'importance justement que les styles architecturaux prennent dans l'édification d'un campus, notamment des références à la Grèce antique, des références aussi au Moyen-Âge, comme on peut le voir avec le Caso, par exemple, à l'Université Laval. Donc, vraiment un chouette ouvrage pour être capable de mieux comprendre ce qu'est un campus universitaire. Et donc, vous ne verrez plus l'Université Laval ou l'Université Laurentienne de la même façon après avoir lu celui.
Et celui-là s'appelle « Lieux de savoir, les campus universitaires et collégiaux » de Maurice Lagueux. C'était ta deuxième suggestion, la première étant « Entre solitude et réjouissance, les francophones et les fêtes nationales » de Marcel Martel et Joël Béliveau. Et le dernier, en anglais cette fois-ci, « Wearing Sovereignties, Church Control and State Pressure at the University of Ottawa » de Adam Strombergson Denora. Tout ça pour qu'on puisse poursuivre une réflexion et peut-être mieux se renseigner sur la situation qui se déroule présentement chez nos voisins en Ontario. Ontario, avec l'Université Laurentienne. Alex Tremblay-Lamarche, un énorme merci. Tout ça sera disponible sur le site de chiz.ca dans la section blog.
Oui, un grand merci, Gabriel.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Et moi, c'est ainsi que je conclus l'émission d'aujourd'hui. Une émission d'une heure cette fois-ci, mais ô combien chargée et intéressante. On a eu un spécial le cinéma aujourd'hui et je tiens à remercier ceux qui y ont participé, à commencer avec Bogdan Anifrani, qui est réalisateur-animateur et qui présente ce soir à 19h le givre de Bobby Eve. C'est dans le cadre de la Journée du cinéma canadien qui est aujourd'hui. Vous visitez leur site web pour découvrir une panoplie de films et de courts-métrages canadiens dans le but de nous connecter entre Canadiens par le cinéma, si c'est pas beau. Ensuite, on a parlé à Nathan Murray qui nous a dressé une liste assez complète des nominés à surveiller aux Oscars qui se déroulent cette fin de semaine et également plusieurs films à visionner pour vous préparer, à commencer avec Une jeune femme pleine de promesses, Minari, Nomadland et Mank, si vous voulez bien vous préparer pour cet événement-là. Ensuite, on a parlé avec Max Turcotte pour les jeux de société qui aujourd'hui nous a parlé d'un jeu de société mais surtout de notre plateforme pour dénicher des petites perles rares. Il s'agit de Kickstarter. C'est vraiment là où est-ce qu'il faut aller pour être à l'avant-garde des prochains jeux de société qui pourraient être très fun à jouer. Et finalement, on a parlé à Alex Tremblay-Lamarche pour une chronique sur les décisions douteuses de l'Université Laurentienne le 12 avril dernier, qui a mis à pied une centaine de professeurs et a supprimé 28 programmes en français de premier et second cycle. Il nous propose 3 ouvrages pour réfléchir sur la question de la francophonie un peu partout au Canada. Alors, si vous voulez retrouver le titre de ces ouvrages, rendez-vous sur notre site chiz.ca, section blog. Toutes ces suggestions et de beaux résumés seront disponibles à cet endroit-ci. Mon nom est Gabrielle Morissette. Merci beaucoup d'avoir été là à Chiz 94.3 aujourd'hui. Dans quelques instants, les architectes du son suivis de 3600 secondes d'histoire. Pour terminer avec Funk Connection, vous êtes à Chiz 94.3. Je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve vendredi.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Il ne paye pas le prix!
Tu veux ta dose de sport quotidienne?
La dureté du mental! Incroyable!
Écoute Chiz 94.3 du mardi au jeudi de 15h à 16h.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
Conduite antisportive, c'est la réunion des meilleurs passionnés de sport à Québec qui vous parle de l'actualité sportive.
Même dans le tarnasse!
Hockey, football, baseball, soccer, curling, béton, chasse et pêche, et bien plus! Conduite antisportive, c'est du mardi au jeudi, dès 15h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
regardez-moi, je suis sous dans la rue. Et vous ne savez pourquoi. Regardez-moi, je suis sous dans la rue. Et vous ne savez.
Love. meilleur de la musique de la ville de Québec, c'est Chiz 94.3 qu'il faut que t'écoutes.
Écoute local, écoute Chiz 94.3.
Le feu, le goutte à goutte du sexe se file sur son...
est faite au Québec, ici, on a des tonnes de copies. Écoute local! Écoute Chiz 94.3.
Yeah. En 2015, cette chanson-là va traîner. Ça m'obsède un peu l'idée qu'elle soit condamnée. En attendant, je fais ce que je peux pour oublier qu'on vit sur du temps emprunté. Dans une minute 50, cette chanson-là va traîner. Dans une minute 45, cette chanson-là va traîner. Ça m'obsède un peu l'idée qu'elle soit condamnée. En attendant, je fais ce que je peux. Je libère les mots de ma tête, puis je les enferme dans un cahier.
Il reste une minute 30, je repense à tantôt quand je disais qu'il restait 2 minutes 20 avant que la chanson finisse.
Ça donne le vertige. Ça donne le vertige. C'est comme si on était déjà mort. Dans une minute 5, cette chanson-là va finir. Dans une minute pile, cette chanson-là va finir. Ça m'obsède un peu l'idée qu'elle soit condamnée. Je vais mordre dans le présent, mettre la table pour le futur. Un beau petit bruit instrumental.
Je repense tantôt quand je disais qu'il restait 2 minutes 20 avant que la chanson finisse.
Ça donne le vertige. Ça donne le vertige.
C'est comme si on était déjà mort.
Dans 15 secondes, cette chanson-là va finir. Dans 10 secondes, cette chanson-là va finir.
Tu penses qu'il n'y a rien de bon qui s'est fait au Québec depuis Men Without Hats? Écoute local, écoute Cheese 94.3.
The Whites of your eyes, conversation normalized, express concern.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM.
Vous voulez en savoir plus sur la psyché humaine? Divertissante, parfois sérieuse, mais toujours instructive, Psychoserie est une émission de radio qui aborde des sujets en lien avec la psychiatrie et la psychologie.
It's not my problem.
Téléchargez le balado ou syntonisez Cheese 94.3 tous les dimanches 11h30 pour un rush de monoamine dans votre cortex préfrontal.
Oh, yeah!
La crème du rap vous fait découvrir le meilleur du hip-hop d'ici et d'ailleurs. On est quatre gars passionnés qui représentent fièrement la capitale nationale. On fait jouer du bon beat, on jase des textes des artistes et on réalise des entrevues exclusives. La série Soul Sunday, la crème dans votre café, le meilleur du rap tous les jeudis 19h sur les ondes de Cheese 94.3.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Cheese 94.3.